Bien, bien, comme elle en a l'habitude, Eliane a parfaitement introduit le propos de ce soir. En commençant par vous signaler qu'effectivement on était dans le mois de Tiché, nous venons de commencer l'année 5772. Et comme c'est le début de l'année, vous me permettrez de réciter la bénédiction d'usage, puisque c'est la première fois que je prends la parole en public cette année. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה בניסוי איתנו על כל דירות לאוניברס כי נוזה דומה להביא, כי נוזה קונסר בין בון סנטה וכי נוזה פרמי דפן סמומן. Alors Eliane a doublement bien introduit le propos puisque c'est par quoi je voudrais commencer en vous parlant de l'alliance avec Abraham. C'est précisément de la fausse simplicité de la formulation. Quand on parle effectivement de l'alliance avec Abraham, on oublie deux faits massifs. C'est qu'il y a en fait deux alliances. L'alliance entre les morceaux, c'est le texte qu'Eliane a lu. Et puis, bien sûr, beaucoup plus connu, l'alliance de la circoncision. Et s'il y a deux alliances, c'est parce qu'en fait, il y a effectivement deux personnes. La première personne porte le nom d'Abraham, et la deuxième, Abraham. On a rajouté une lettre. Je vais juste me déplacer et faire tout ça. Alors, j'écris en principe extrêmement mal. Donc, si vous n'arrivez pas à me relire, vous me le dites. Donc, on a une première alliance qui est l'alliance entre les morceaux. Brit ben Rekarim, et on a une seconde alliance qui est la Brit Mila, donc la circoncision. Donc la première remarque que je voudrais faire, et c'est vraiment le fil conducteur de ce que j'aurais à dire ce soir, c'est que a priori on peut considérer que l'alliance, c'est une notion qui est faussement simple, qui est sans doute duelle, qui est complexe. Ce qu'il va falloir essayer de faire, ce que je vais essayer de faire, c'est montrer en quoi elle relève toujours de quelque chose de complexe, de duel et de composé. Alors, ça sera mon hypothèse de travail, hypothèse que je fonde sur l'extrait que je vais vous lire, l'extrait d'un livre de Patrick Bannon. C'est une somme, la seule somme en français qui existe à ce jour, qui a été publiée l'an dernier, sur la circoncision. Et dans ce texte, Patrick Bannon écrit ceci. C'est sans enfermer ce rite dans une signification originelle qu'il est nécessaire de l'appréhender. Les significations diverses et complémentaires de la pratique de la circoncision font en effet intégralement partie du rite lui-même. Donc avant même de considérer qu'il y a effectivement deux alliances, Patrick Bannon considère que déjà l'alliance de la circoncision en elle-même est plurielle et complexe. Alors, pour essayer de développer cette idée, de démontrer quelle est la nature de la complexité de ces alliances, je me baserai en fait sur une idée qui est exprimée dans un livre de Gilles Deleuze, philosophe contemporain, sur le baroque, livre qui est intitulé Le Puits, dans lequel Gilles Deleuze écrit la chose suivante. Le baroque ne renvoie pas à une essence, mais plutôt à une fonction opératoire. Alors, c'est cette idée de fonction opératoire que j'aimerais conserver. Il me semble qu'il en va pour l'alliance, comme il en va pour le baroque. Une alliance opératoire. Je vais me baser, en fait, sur, ça sera la thèse que je vais essayer de défendre, je vais me baser sur un jeu de mots que j'espère justifier. Puisque la circoncision, c'est une opération chirurgicale, avant tout, eh bien, je vais essayer de montrer que cette opération chirurgicale, elle est en fait sous-tendue par une opération mathématique. Et donc, on peut à la fois, c'est deux points de vue, si vous voulez, qu'on peut adopter sur la circoncision, considérer que c'est une opération chirurgicale ou bien une opération mathématique. À mon avis, cette opération, à la fois chirurgicale et mathématique, elle s'applique à trois niveaux. Elle s'applique au niveau du corps individuel, sur le corps d'Abraham. Elle s'applique au niveau du corps collectif, du peuple d'Israël. Et elle s'applique aussi au niveau du corps, corpus, du corps de mots, la Bible elle-même. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'alliance a un triple effet sur le corps individuel, le corps collectif et le corps de mots, la structure même de la Bible. Donc, je vais commencer par une sorte d'anthropologie, comme je l'indique donc sur le plan que je vais distribuer. On va passer de la soustraction à l'addition. C'est la première idée. Essayez de voir à travers l'analyse de quelques textes comment l'alliance de la circoncision implique différentes opérations mathématiques. Alors, le premier texte vers lequel je voudrais vous diriger, c'est en 1 Samuel, chapitre 18, versets 20 à 30. Donc, 1 Samuel, chapitre 18, versets 20 à 30. Alors, le contexte historique est le suivant. Le roi Saül a engagé une campagne contre les Philistins et il demande à David, qui n'est pas encore roi, de lui rapporter 100 prépuces de Philistins. Sans hésitation, David se lance. Et voilà ce que dit le texte, au verset 17. David se mit en route et partit avec ses hommes. Il abattit parmi les Philistins 200 hommes. David apporta leurs prépuces, dont on fit le compte devant le roi. Donc dans ce contexte, on s'aperçoit que la circoncision, c'est avant tout une opération de numération, une opération arithmétique. Pourquoi est-ce qu'on circoncit les Philistins, les cadavres des Philistins? C'est finalement pour une grande pratique, plutôt que de se trimballer 200 cadavres de Philistins, de les ramener dans le palais du roi, il est plus facile de couper les prépuces, de les mettre dans un sac, et une fois qu'on est rentré, le soir au coin du feu, de compter les prépuces pour savoir combien on a tué de Philistins. C'est ce qu'on appelle en français la décimation. Qu'est-ce que c'est que la décimation? On décime, c'est-à-dire qu'on compte jusqu'à 10, de 10 en 10, pour savoir combien d'ennemis on a tué. Donc la première fonction de cette opération chirurgicale, c'est bien une opération mathématique, puisque ça relève de la numération et de la décimation. C'est sans doute un des premiers usages de la circoncision, et d'ailleurs il faut préciser que cet usage, il est égyptien au départ, sauf que les égyptiens ne se contentaient pas de couper le prépuce, ils émasculaient carrément les cadavres des ennemis, ou carrément les prisonniers, pour être sûr qu'il n'y ait pas de descendance, pour être sûr d'affaiblir le peuple qu'ils voulaient vaincre. Tout simplement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce contexte, c'est que ce texte, vous le relirez tranquillement chez vous, mais il est très hétérogène. D'un côté, on a ce contexte guerrier, où Saül demande donc à David d'aller faire la guerre, et puis, un rédacteur ultérieur a rajouté une raison. Pourquoi est-ce que Saül demande ça? Eh bien, il lui dit, si tu arrives à me rapporter 100 prépuces de Philistins, je t'offre ma fille Mical, elle deviendra ton épouse. Donc, on s'aperçoit que la deuxième fonction de la circoncision, c'est en fait de l'ordre d'un rite prénuptial. Si David parvient à ramener le bon compte, le bon nombre de prépuces, alors il pourra épouser la fille. Donc à l'époque, on n'avait pas d'alliance de bagues. Ce qu'on passait au doigt, c'était un prépuce de Philistin. Heureusement que les mœurs ont évolué. Sinon, on imagine la scène par les rues. Alors, cette fonction d'ordalie prénuptiale, c'est en fait très important, parce que cette fonction, on la retrouve dans un autre texte assez énigmatique, qui est Exode, chapitre 4, où, à partir du verset 24, où il s'agit en fait de la circoncision du fils de Moïse, Tipora. Alors, texte là aussi assez étrange, où c'est Tipora qui va procéder à la circoncision de son fils, parce que Moïse ne le fait pas. Je me demande bien pourquoi Moïse, celui qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, refuse de pratiquer ce commandement qui est essentiel, c'est de pratiquer la circoncision sur son fils aîné. Mais la réponse est toute simple, c'est que précisément, à cette époque, c'était les femmes qui pratiquaient la circoncision, pas les hommes, La circoncision pratiquée par les hommes, c'est une invention beaucoup plus tardive, qui sera entérinée du point de vue juridique bien plus tard, notamment au Moyen-Âge. Et on a une preuve, finalement, de ce que les femmes pratiquaient la circoncision, dans un autre texte, du deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, verset 10, qui indique très clairement que certaines femmes ont été mises à mort par les autorités hellénistiques pour avoir procédé à la circoncision de leur fils. Donc ce texte de Maccabée, chapitre 6, verset 10, indique qu'effectivement, la circoncision est une pratique plutôt maternelle, féminine. Alors, si on essaie de se demander pourquoi, la réponse vient sans doute de l'étymologie. Dans le texte d'Exode, chapitre 4, Tipora, une fois qu'elle a procédé à la circoncision de son fils, à cette expression étrange, « Atratan damim ata », tu es pour moi un époux de sang. Ratan, c'est le circoncis, c'est aussi l'époux, ou bien le gendre. Et donc, la circoncision, pour revenir à l'opération mathématique, c'est une soustraction, on enlève une partie du corps, parce qu'on veut, en fait, à travers cette soustraction, procéder à une addition. On veut faire entrer un homme dans le clan maternel. Donc, pour que Moïse puisse entrer dans le clan de Tsipora, il faut que Tsipora pratique la circoncision. Donc, on a une soustraction qui aboutit, en fait, à une addition. Logique chirurgicale et logique mathématique. Alors, on a un autre exemple de cette fonction-là, dans un texte très controversé, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Genèse, chapitre 34, c'est le texte auquel on donne d'habitude le titre du le viol de Dina. Dina, et alors, le texte hébraïque, j'indique le titre qu'on donne habituellement, le viol de Dina, parce que le texte est beaucoup plus énigmatique, beaucoup moins clair que cela. Rien dans le texte hébreu ne vient indiquer qu'il y a explicitement un viol, mais bon, c'est ici, peu importe. Ce qui est essentiel, c'est qu'une fois que l'acte a été commis par un membre donc, de la tribu de Shechem, de Sichem, les frères de Dina, scandalisés par la perspective d'une union qui se fait à l'extérieur du peuple, obligent les fils de Shechem à se circoncire. Donc on voit bien que la circoncision est une opération qui vise à inclure celui qui est extérieur au clan à l'intérieur du clan. Donc, on a encore soustraction qui mène à addition. La logique, c'est sans doute de... Finalement, une logique là aussi assez pratique, c'est qu'on sait toujours qui est la mère, c'est pas toujours qui est le père de l'enfant. Donc, procéder à la circoncision du futur époux, c'est l'inscrire dans une généalogie. C'est donc s'assurer que l'enfant aura une mère et un père dont l'identité est bien connue. Donc, ça a surtout, finalement, cette fonction-là. On peut, dans un autre texte, relever une logique qui serait plus une logique de substitution. Ce serait l'un à la place de l'autre. Alors, il faut aller voir en 2 Samuel, chapitre 12, verset 14, où on lit ce verset qui doit faire frémir. En cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. Donc, 2 Samuel 12, 14. En cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. C'est un verset qui illustre une des logiques de la rétribution, qui est de faire retomber le péché des pères sur les enfants. Donc le père a jeté, l'enfant doit mourir. Et bien, la circoncision, finalement, serait un rite qui viendrait se prémunir contre ce type de logique. Circoncire le père, c'est finalement le faire saigner, faire couler son sang, symboliquement, sans le tuer. Donc c'est repousser l'éventualité d'une mort réelle. Ça, si vous voulez, on peut faire en parallèle avec ce qui se passe avec les araignées et la veuve noire. Une fois que l'acte est consommé, la veuve noire est fécondée, et tue le mâle, elle le dévore. La circoncision viserait à couper court, si j'ose dire, à la logique. C'était pour toi, Jean-Claude, ce petit jeu de mots. À couper court, donc, à cette logique de la veuve noire. Moïse, circoncis, entre dans le clan de Tipora. Il sait qu'une fois que son enfant viendra à naître, il ne sera pas tué. Tous deux pourront continuer à vivre. Donc c'est une logique de substitution. Je fais don, je fais sacrifice de mon prépuce pour conserver ma vie. Donc, encore une fois, soustraction, je perds une partie du corps, mais addition, je gagne la vie, et ici, je gagne la survie. Donc on est toujours finalement dans cette logique, soustraction, addition. Alors, cette fonction qu'on va appeler, c'est la fonction salvifique de la circoncision, puisque la circoncision ici aurait pour but de faire couler le sang, et le sang serait ici le symbole de la vie. Bon. Alors on est habitué évidemment à ce symbole. Oui, la symbolique du sang, le sang c'est la vie, etc. En fait, c'est une symbolique qui est assez récente. C'est une symbolique qui est apparue finalement au début de l'époque rabbinique, vers finalement le 1er siècle. On en reparlera un petit peu plus tard. Et les rabbins du Talmud voient l'origine finalement de cette fonction salvifique de la circoncision dans un texte très, très, très connu. C'est celui où Dieu appose un signe au front de Caïn. Après que Caïn a tué Abel, il est condamné à l'exil, mais pour le protéger, Dieu lui inscrit un signe. Alors, en hébreu, Ot. Alors, Ot, ça peut être un signe, ça peut être aussi une lettre de l'alphabet hébraïque. Et selon un texte kabbalistique, les Tikkuné Zohar, eh bien, la lettre qui est apposée sur le front de Caïn est une allusion à la circoncision. Ce qu'a fait Dieu, finalement, c'est circoncire Caïn. Et c'est la circoncision de Caïn qui, effectivement, lui a procuré une protection, qui a fait que personne ne l'a tué. Donc, même logique qu'avec la circoncision, finalement, chez Tipora, on fait entrer quelqu'un, non pas ici dans le clan, mais dans la vie. On permet à quelqu'un de survivre. Donc là encore, soustraction qui amène une addition. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce qui est fondamental dans le rite de la circoncision, ce qui a longtemps été fondamental, parce que ça n'est plus tout à fait le cas, à cause de cette fonction salvifique qu'a reçu le sang, cette fonction symbolique, le sang qui est la vie, ce qui a longtemps primé dans la circoncision, ce n'est pas que le sang coule, c'est la coupure. Ce qui importe, c'est de couper. Parce qu'en hébreu, on ne dit pas conclure une alliance, ni contracter une alliance, mais on dit couper une alliance. Donc, c'est cette coupure qui va faire que finalement, l'addition est possible. Donc, la coupure, on la retrouve justement dans la première alliance, et c'est celle qui permet de faire le lien entre les deux. Très longtemps, la circoncision était une affaire de coupure, parce qu'elle se calque finalement sur la première alliance, l'alliance entre les morceaux. On a bien vu dans le texte qu'a lu Eliane qu'il s'agissait de dépecer, donc de couper, de partager les carcasses d'animaux. Et dans un cas, donc l'alliance de la circoncision permet de faire passer celui qui est extérieur à l'intérieur du clan, c'est une alliance exogamique, extérieur, le mari est extérieur au clan mais il va passer à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'alliance entre les morceaux? Eh bien, on trouve le monothéisme. Ce qu'on va couper permet l'entrée dans l'alliance avec le Dieu 1. le Dieu unique. Donc, ceux qui étaient extérieurs, ceux qui étaient polythéistes, pour devenir monothéistes. Donc là, on a une réduction du multiple à l'un. Alors, qui dit coupure, évidemment, au niveau mathématique, dit division. Donc, on va passer à la troisième partie qui va s'intéresser non plus aux soustractions et aux additions, mais aux divisions et aux multiplications. Donc, on a dit que l'essentiel, c'était la coupure, c'est carrette de riz. Donc, couper, c'est essentiellement diviser. Donc il n'y a pas, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas d'abord division. C'est le geste premier, c'est le geste fondamental. Et cette division doit être vécue sur le mode négatif, au contraire positif. C'est que la division débouche dans le texte qu'on a lu sur la soudure. Une fois que les animaux sont partagés, le feu passe au milieu pour symboliser l'union, l'alliance contractée. Le fait que ça colle, que les deux parties sont à égalité l'une de l'autre. Les deux contractants sont sur un pied d'égalité. On voit ça dans les films policiers, par exemple. On prend un billet de banque, on le partage en deux. Chacun des deux garde la moitié du billet, comme ça quand ils se rencontrent, ils sont sûrs que c'est bien eux. Un film d'espionnage, par exemple. C'est une bonne façon d'identifier les contractants, le contrat d'une alliance. C'est exactement pareil ici. On coupe en deux, et on est sûr que chacune des deux parties garde justement une partie qui a été coupée. Donc, la division assure l'égalité fondamentale entre les contractants. Alors, à quoi sert de diviser ? C'est bon. Quand on divise, on s'aperçoit ici avec Abraham. Lorsque Abraham est divisé, il donne naissance à un nouvel individu. Un individu, c'est quelqu'un qui ne peut plus être divisé. Il est individu parce qu'il est indivisible. Donc, toute cette affaire, pourquoi deux alliances? Pourquoi Abraham et Abraham? Eh bien, c'est précisément parce que l'alliance a pour but, à partir d'Abraham, de faire naître Abraham, un individu qui sera indivisible. Alors, on peut expliquer ou décrire cette affaire-là de manière mathématique un petit peu différemment. On dit souvent que Abraham, c'est le premier patriarche. Abraham, Yitzhak et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Alors moi j'ai plutôt envie non pas de l'appeler premier patriarche, mais patriarche premier. Comme on dirait un nombre premier. Alors en mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? C'est un nombre qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Bon, on va poser l'opération. Vous avez Abraham, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, circoncis-toi. Qui c'est Dieu? Adonai Echad, Dieu c'est un. Donc Abraham divisé par un, Dieu, égal. Abraham. Il n'y a que, quand Dieu demande à Abraham de se diviser, d'opérer la circoncision, que l'individu, nouveau, Abraham peut naître. Qui va circoncire Abraham? Ben, personne, il est tout seul. Donc, il va se diviser lui-même, comme un nombre premier. Donc, vous avez Abraham, divisé par Abraham, ça fait un. Ça fait un individu. Indivisible. C'est le même. Donc, c'est bien un patriarche premier, comme un nombre premier. Il est l'individu qui ne sera plus divisible. et s'il n'est plus divisible, s'il est le produit de la division, mais lui-même n'est plus divisible, qu'est-ce qu'il nous reste ? La multiplication. Et ça s'appelle comment, la multiplication, en langage biblique ? Ben, ça s'appelle la bénédiction. Dieu ne propose à Abraham la bénédiction, la multiplication, qu'après qu'il a été divisé. Et ça, on l'a déjà dans l'histoire d'Adam. Adam Kadmon, le premier Adam, a été créé androgyne. Un en deux, c'est pas trop. Donc on va couper. Ça va produire Adam de Chava. Adam et Ève. Bien. La division a été opérée. Du coup, Adam c'est Adam et Chava c'est Chava. Chacun est un individu un, unique. Parce qu'il y a eu division. La division crée l'individualité, ce qui n'est plus divisible. Et après, que dit Dieu ? Il énonce une bénédiction sous forme d'ordre. Mais en fait, un ordre, on sait bien ce que c'est une loi mathématique. Pourrez-vous fructifier et pourrez-vous multipliez-vous. Donc la bénédiction, c'est bien la multiplication. Mais la multiplication n'est possible que parce qu'auparavant, il y a eu division. Et il n'y a division que parce qu'il y a alliance. Parce qu'il y a coupure. Donc la logique mathématique de l'alliance, c'est je divise pour ensuite produire un individu qui pourra être béni. Donc le produit de la division débouche sur la multiplication qui est bénédiction. Alors si on regarde la division, Abraham que divise Abraham, ça fait un reste. Zéro. Il ne reste rien. Donc l'alliance, c'est le sous-partie D, cette partie-là, l'alliance c'est une opération sans reste. L'alliance c'est une opération sans reste. L'alliance qui marche parfaitement ne produit pas de reste. C'est une opération parfaite. Donc l'opération chirurgicale, parce qu'elle est sous-tendue par une opération mathématique, ne produit pas de reste, produit la perfection. Dans le texte biblique, Abraham est appelé Shalem, parfait, intègre, entier, comme un nombre entier, une fois qu'il a été circoncis. On n'utilise jamais le mot Shalem, intègre, intégral, entier, parfait, pour quelqu'un qui n'est pas circoncis. Donc, il n'y a pas de reste. L'absence de reste, c'est la perfection. Donc, on va poser comme ça. Parce que l'opération chirurgicale peut être réécrite selon l'opération mathématique, il n'y a pas de reste. La question que maintenant j'ai envie de poser, c'est ça. Est-ce que la réciproque est vraie ? Est-ce qu'on peut dire, si on considère l'alliance comme une opération mathématique, on va réécrire selon une logique chirurgicale, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de reste ? Est-ce que ça fonctionne si bien que ça ? Il n'y a pas un reste quelque part. On va essayer de montrer que si, effectivement, il y a un reste. Et c'est la quatrième partie que j'ai intitulée donc la cicatrice d'Abraham. Alors, dans un livre assez récent, une philosophe contemporaine qui s'appelle Catherine Malabou. Dans un livre qui s'appelle Changer de différence, elle s'intéresse à la manière dont, dans le monde animal, on répare la coupure. Que se passe-t-il chez les animaux lorsqu'on les entaille, lorsqu'on les coupe, lorsqu'on les incise ? Elle en vient finalement à a dégagé trois grandes lois, trois grands paradigmes. Alors qu'elle appelle le phénix, l'araignée et la salamandre. Parce que chacun des trois animaux, pour elle, symbolise finalement une façon de se réparer. Disons. Alors, bon, le phénix, on connaît, hein, s'il est touché, s'il est incisé, s'il est blessé, il se brûle, il renaît de ses cendres, il est toujours identique à lui-même, pas de problème. C'est là, c'est la renaissance à l'identique. L'araignée, c'est un petit peu différent. L'araignée, quand on admire sa toile, elle retisse, même en ça se tisse, ça se détisse, ça se retisse à l'infini. Et puis, la salamandre, c'est ça qui va nous retenir. La salamandre, ce qui est particulier, c'est que si vous lui coupez une patte de la queue, pas par sadisme, juste pour voir ce que ça donne dans la science, eh bien, vous remarquez que l'organe qui a été coupé repousse, se reproduit. C'est ce que le Catherine Malabou appelle la régénération. Mais cette régénération, elle est, pour nous, elle est fondamentale. Parce que contrairement à ce qui se passe sur le corps humain, la régénération du corps de la salamandre, elle se fait sans cicatrice. Il n'y a aucune cicatrice. Et donc, la régénération, c'est une opération chirurgicale, une opération naturelle, qui se fait sans cicatrice, sans reste. Quoi. Il ne reste rien de l'opération. Alors évidemment, pour la circoncision, il y a une cicatrice. Donc il y a un reste. Donc l'alliance de la circoncision vue comme ça, avec les catégories que propose Catherine Malabou, ben, elle nous conduit bien à dire qu'il y a un reste quelque part. Alors reste à comprendre la fonction de et la nature de ce reste. Alors, pour le dire autrement, on pourrait dire que l'alliance, c'est une opération qui consiste à inclure, on l'a vu, avec Tipora par exemple, on inclut dans le corps maternel. Donc s'il y a reste, c'est qu'il y a exclusion. L'alliance, et c'est ce que je vais essayer de montrer, est une opération qui finalement vise à inclure, mais inévitablement exclut toujours d'une certaine manière. Et on n'y peut rien. Exemple, avec Abraham et Abraham. Une fois que Abraham a été circoncis, il s'appelle Abraham, tout le monde a oublié qu'il y avait Abraham. Abraham, il est en reste, il est secondarisé finalement. Il était premier au départ, c'est lui qui a conclu l'alliance entre les morceaux, et une fois que Abraham est circoncis, on ne parle que de Abraham. Donc il y a une secondarisation de ce qui était premier, il y a une forme d'exclusion. Et c'est la même chose avec l'alliance entre les morceaux. Une lecture rapide des textes qui concernent l'alliance entre les morceaux et puis la circoncision, donc chapitre 15 et 17 de la Genèse, une lecture rapide montrerait qu'en fait il y a un point commun fondamental. C'est que chacune des deux alliances est la condition de la possession de la terre. Si tu conclus cette alliance avec moi, je te donnerai la terre. Si tu conclus cette alliance de la circoncision, je te donnerai la terre, ou en tout cas, je donnerai la terre à tes descendants. Oui, sauf que dans l'alliance entre les morceaux, la terre, elle est promise, mais ce qui est aussi promis, c'est l'exil. C'est l'exil. Donc, on veut bien inclure celui qui conclut l'alliance sur la terre, dans la terre, mais on l'en exclut par le même geste. Donc il y a bien un reste. Et c'est d'ailleurs Moïse qui aura tellement un reste, qu'il va rester à l'extérieur de la terre promise. Il ne rentrera pas, par exemple. Donc il y a bien une forme de reste en dehors, excusez-moi. Alors, certains commentateurs, donc là je parle de l'alliance entre les morceaux, certains commentateurs essayent d'expliquer finalement la raison pour laquelle Dieu promet l'exil à Abraham. Abraham, pardon, qui n'est pas encore Abraham. On va dire la chose suivante. Certains disent, lorsque Dieu suscite une maladie, il suscite en premier le remède. Ah. C'est-à-dire que il y aura exil, mais il y a aussi la promesse de la terre qui sera donnée aux descendants. Donc certes, il y aura l'exil, mais le remède existe, il arrivera plus tard. Alors ça, c'est une logique qui est beaucoup appliquée par les commentateurs pour expliquer la vente de Joseph par ses frères. Pourquoi Joseph est vendu par ses frères? Parce que plus tard, il y aura la famine. Et que plus tard, lorsque au pays de Canaan, on n'aura rien à manger et qu'il faudra descendre en Égypte, on sera bien content de trouver Joseph qui nourrira la famine. Donc la vente de Joseph, Gamzou le Tova, elle se fait aussi pour le bien. Donc la vente de Joseph, c'est en fait le médicament qui existe avant la famine. Bon. Et la même logique s'applique, pour certains commentateurs, dont je ne suis pas, s'applique à l'annonce finalement de la terre promise de l'exil. Oui, il y a l'exil, mais il y aura la terre promise. Il y a la maladie, mais il y a le remède. D'autres commentateurs, dont je ne suis pas non plus, expliquent que finalement, si Abraham récolte l'exil, c'est qu'il a semé le doute. Et comment saurais-je que ce que tu me racontes est vrai? Ah, ça suffit. Hein. Pourquoi il doute là? Oui, il doute. S'il doute, alors il n'aura pas la terre, il va récolter l'exil. Bon. Je préfère une autre explication qui est tirée du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague explique que l'exil n'est pas la conséquence d'une faute, ni d'une faute individuelle, parce qu'Abraham aurait douté, ni d'une faute collective, parce que le peuple se serait comporté de façon ignoble, il n'aurait pas respecté les termes de la loi, etc., etc. Non. Pour le Maharal de Prague, il y a une nécessité ontologique. C'est à cause de la structure même de l'être du monde dans lequel nous vivons que l'exil y doit arriver. Alors, il y a différentes formes, Il se trouve qu'il s'est produit l'exil sous différentes formes historiques. Il aurait pu se produire sous d'autres formes historiques. Mais il était inévitable que l'exil se produise de toute façon. Parce que c'est une conséquence nécessaire de la structure même du monde dans lequel nous vivons. Donc, selon cette explication, l'alliance débouche sur la promesse de la terre, sur une addition, sur une inclusion, mais ontologiquement, elle ne peut pas ne pas déboucher aussi sur une soustraction ou sur une exclusion. Non pas parce qu'il y a faute, ça n'est surtout pas à lire d'un point de vue moral, c'est juste parce que le monde est ainsi fait. Donc de ce point de vue-là, moi, l'idée qu'aimerais défendre, c'est que l'alliance correspond à la structure que décrit le Maharal de Prague. Et que lorsque l'alliance vient à inclure, alors nécessairement elle exclut aussi en même temps, qu'on le veuille ou pas. La plupart du temps, on ne le veut pas. Mais c'est comme ça. Donc, comment est-ce qu'on explique l'articulation entre la promesse de la terre et la promesse de l'exil? Ben, la seule articulation possible, c'est de dire qu'il y a la promesse de la terre, et à côté, il y a la promesse de l'exil, mais il n'y a pas 1 plus 1, il n'y a pas d'opérateur mathématique. Les deux ne s'ajoutent pas, les deux viennent ensemble, les deux sont contradictoires, mais les deux viennent ensemble et c'est comme ça. Donc c'est l'échec de l'opération mathématique. Alors, cette logique-là, je vais essayer. Je vais l'écrire de cette façon-là. Ça veut dire, on a un, et puis on a un, mais on n'a pas deux. Mais on ne peut rien faire avec ça. On a juste un à côté de l'un. Il n'y a pas d'opération possible à strictement parler. Alors, ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est que cette logique, cette impossibilité mathématique, elle se retrouve dans plein endroit du texte biblique, à des endroits différents, soit dans le texte, soit dans les événements dont on nous parle, soit dans les structures des rituels, des fêtes, etc. Donc je vais essayer de passer en revue quelques éléments qui me semblent fondamentaux. Alors, dans le texte que Kélian a lu, donc chapitre Genèse, chapitre 15, verset 12, le texte dit la chose suivante. « Et une grande angoisse. » Abraham ressentit une grande angoisse. Alors pour Rashi, c'est le grand commentateur du XIe siècle, pour Rashi, l'expression à une grande angoisse renvoie aux ténèbres de l'exil. Si Abraham a ressenti une grande angoisse, c'est parce qu'il a anticipé, on peut dire, l'exil à venir. Et ça l'a angoissé. Et Rashi dit, ça fait allusion aux ténèbres de l'exil. Alors ça, c'est le mot le plus important. Parce que dans le texte hébreu, c'est le mot Rashekra qui est utilisé. Alors, le mot... je vais vous écrire en entier, ça ira mieux. Donc, l'expression qui est utilisée dans le texte hébreu, c'est « Ema hachecha gdola », c'est-à-dire, donc, une angoisse, profonde et grave. Bon. Mais en fait, Rashi dit bien, c'est une allusion aux ténèbres de l'exil. Parce que le mot « hachecha » est ici, dans ce texte, est compris comme un adjectif. Donc, vous avez le nom, angoisse, vous avez adjectif et adjectif. En fait, ce mot « hachecha », il est lié à un autre mot qu'on trouve dans le verset 2, chapitre 1 de la Genèse, qui est Rocher. Lorsque, dans le chapitre 2, dans le verset 2, chapitre 1, pardon, de la Genèse, on décrit le monde avant qu'il soit organisé par Dieu, on a quatre termes, Tohu, Vohu, Rocher, Tehom. Bon, oui. Vous aurez reconnu le Tohu Bohu, donc qui viennent de l'expression Tohu Vohu. En fait, on appelle ça Tohu Bohu en français parce qu'on n'a aucune idée de ce que ces mots veulent dire. C'est la seule fois où ils apparaissent dans le texte hébraïque et personne ne sait ce qu'ils veulent dire, donc Tohu Bohu, sans traduction. Donc, Tohu Bohu, Rocher, Tehom, c'est l'abîme. Alors, les commentateurs rabbiniques ont toujours compris ces quatre termes comme renvoyant aux quatre exils historiques que le peuple juif aura à subir. L'exil babylonien, l'exil perse, l'exil mède, l'exil romain. D'accord ? Donc, chacun des termes étant connoté négativement, les rabbins du Talmud les ont compris comme renvoyant aux quatre exils historiques. Ça va jusque-là. Le problème mathématique qui se pose, c'est que on n'a pas quatre exils, on a cinq. Parce qu'à l'Égypte, il y a l'exil égyptien. L'exil égyptien n'est pas comptabilisé dans cette série. Donc, du point de vue de l'interprétation rabbinique de ces versets qui annoncent les exils, on a un hiatus entre les quatre exils historiques et l'exil égyptien, qui est un exil à la fois historique et symbolique. C'est la matrice, c'est le paradigme de tous les exils à venir. Donc on a non pas cinq exils, selon la tradition rabbinique, mais un plus quatre, qui ne forment pas un tout. Il n'y a pas d'opération possible, il n'y a pas d'addition possible. Donc cette impossibilité d'ajouter, on la voit aussi à travers l'interprétation rabbinique de l'annonce des exils. Alors, cette logique-là, on la retrouve ailleurs, dans le texte de l'alliance entre les morceaux. Eliane a bien lu tout à l'heure, il y avait cinq animaux. Dieu demande à Abraham de sacrifier cinq animaux. Sauf que le dernier animal n'est pas sacrifié. Donc au départ, on a l'impression d'avoir une série 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 5. Mais en réalité, ce qu'on a à bien lire le texte, c'est 4 plus 1 ne font pas 5. Il y a impossibilité radicale d'aboutir à une série complète. Donc il y a quelque chose qui, mathématiquement, dans cette alliance, ne fonctionne pas. Il y a un des animaux qui est exclu de la série, qui n'est pas sacrifié. On peut retrouver cette logique ailleurs. Lorsque le peuple d'Israël est au désert, ils vont former le camp. Et le camp va être organisé selon des critères topologiques, nord, sud, est, ouest. À chaque point cardinal, on va rattacher des tribus. Et on aura 3 fois 4, 12. 4 points cardinaux multipliés par 3 tribus, ça fait 12 tribus en tout. Formidable. Oui, sauf que les Lévites forment la 13e tribu et ils ne sont pas comptabilisés. Ils ne sont aucun des points cardinaux et ils ne sont pas dans les séries 3 fois 4. Donc on aboutit à cette logique-là. Sont 12 plus 1 qui ne font pas 13. Problème mathématique. On n'arrive pas à inclure tout le monde. Les Lévites ne sont pas tout à fait inclus, ils sont inclus de façon paradoxale. Et l'inclusion paradoxale, ça s'appelle quand même l'exclusion. Il se trouve que cette logique-là, et ça c'est le troisième plan que j'avais défini à l'introduction, on a parlé du corps individuel du corps collectif, il se trouve que cette logique-là, elle se retrouve dans la structure même du texte biblique, la Torah. La Torah, Chumash en hébreu, Pentateuque en grec, 5 livres. 5 livres. 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, égale 5. Et sauf que on n'a pas réellement 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, font 5. On a 4 livres, Genèse jusqu'à Nombre, et Deutéronome, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Mishneh Torah, ou en grec Deutéronomos, la deuxième loi, la répétition de la loi. Donc ce cinquième livre, en fait, répète un des 4 livres précédents. Donc on a 4 plus 1 qui ne font pas 5. Parce que le cinquième livre n'est pas sur le même plan que les autres. Mais cette logique-là, on la retrouve ailleurs, dans un autre texte. Puisqu'on a bien 4 évangiles plus le livre des actes. On a bien 4 évangiles plus 1. Et en fait, parce que c'est la seconde alliance, l'alliance chrétienne, et bien la seconde alliance redouble le problème qu'il y avait dans la structure de la première. Puisque on n'a pas 4 évangiles, on a 3 synoptiques plus 1. Donc on a 3 plus 1 qui ne font pas 4. Et 4 plus 1 qui ne font pas 5. C'est la même logique, mais redoublée. Donc, façon de dire aussi qu'on voit bien que la structure du Nouveau Testament est une interprétation midrashique. Dans sa structure même, une répétition de l'interprétation midrashique de l'Ancien Testament, ouvrez et fermez les lignes. Et donc, de façon polémique, je ne peux que conclure que la nouvelle alliance qui se veut universelle et sans exclusion, parce qu'elle est deuxième alliance, ne fait que redoubler les problèmes qu'il y a eu dans la première. Où on a bien inclusion, mais on a de toute façon, qu'on le veuille ou pas, et on ne le veut surtout pas, mais c'est comme ça, il y a exclusion. Dans la formulation paulinienne, puisque c'est ça qui va me retenir, Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni homme, ni bon, ni esclave. Conception universaliste. On inclut tout le monde, sans plus de différence, ni d'exclusion, ni d'exclusive. C'est une inclusion sans exclusion qu'on essaye de définir. Sauf que, je me baserai sur les travaux de François Blanchetière, par exemple, grand spécialiste des judéo-chrétiens, ce qu'il appelle les notrines. C'est-à-dire les Nazaréens, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, ceux des juifs qui suivaient Jésus, qui avaient reconnu la messianité de Jésus, eh bien, ces judéo-chrétiens, ils ont de fait été exclus, historiquement. Ils n'ont pas été inclus dans la Nouvelle Alliance, ils en ont été exclus. Je cite François Blanchetière, ils furent rejetés et par le monde juif, et bientôt par tout un pan du mouvement chrétien. Double excommunication, double exclusion. 3 plus 1 qui ne font pas 4, 4 plus 1 qui ne font pas 5. Double excommunication. Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les innombrables raisons pour lesquelles les judéo-chrétiens ont été exclus, eh bien, il y a un problème arithmétique. Parce que ces notrines, ils étaient ce qu'on appelait des quartodécimants. Alors, à l'époque, c'était considéré comme une maladie grave. Ce quartodécimant, ils étaient quartodécimants. C'est-à-dire, ils célébraient la Pâque le 14 Nissan. J'allais dire comme tout le monde, comme les Juifs, quoi. Donc, pour un certain pan de l'Église naissante, si on calculait la date de la Pâque comme le faisaient les Juifs, c'est-à-dire si on la faisait tomber le 14 Nissan, on calculait. Mal. Il y a un problème arithmétique dans cette alliance. Problème arithmétique qui conduit à l'exclusion. Réel, historique. C'est François Blanchetière, c'est pas moi qui le dis. C'est lui. Donc, être quartodécimant, c'est calculer de la mauvaise façon. Il y a un problème dans l'alliance qui amène à l'exclusion. Alors, François Blanchetière, il y a une double excommunication, parce que ces gens-là ont été aussi exclus de la synagogue. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on retombe, là aussi, sur un problème mathématique. Comment on a fait pour exclure les judéo-chrétiens ? C'est-à-dire que c'était des juifs qui considéraient que Jésus était leur rabbi, leur maître. Donc ils rejetaient les rabbins qui allaient devenir, mais qui n'étaient pas encore les rabbins officiels, et ils suivaient Jésus comme leur maître. Mais comme ils étaient juifs, ils allaient à la synagogue. Et donc, les rabbins ont eu cette idée brillante de rajouter une bénédiction aux 18 bénédictions existantes. Alors, il y a deux grandes prières juives qu'on récite. Il y a le Shema Israël. Ça, c'est facile, c'est Adonai Echad, c'est un. Donc, la mathématique est très simple. Et puis, il y a la deuxième prière qui est ce qu'on appelle la Amida. Alors, on appelle ça Amida parce qu'on est debout. Le fait de se tenir debout, c'est la station debout, Amida. Mais, assez couramment, on dit le Shmoné Esrei. Shmoné Esrei, ça veut dire 18. Alors, pourquoi ça s'appelle 18 ? Parce qu'on récite 19 bénédictions. Problème mathématique. 18 plus 1, ils ne font pas 19. On a 18 bénédictions dans la Amida. À un moment donné, c'est dans le traité Berachot, folio 28b, Shmuel Akatan, c'est Samuel le Petit, parce qu'il était très humble, très modeste, Akatan. Et donc on lui a dit, toi, Shmuel Akatan, Tu vas nous écrire une bénédiction, une 19e bénédiction, alors évidemment c'est un euphémisme, c'est une malédiction. Hein. Pour que tous les judéo-chrétiens qui sont dans notre synagogue, lorsqu'ils se mettent à réciter la Amida, lorsqu'ils ne pourront pas lire cette malédiction, puisque cette malédiction s'adresse, c'est écrite à l'encontre des judéo-chrétiens, donc ils ne pourront pas la lire. Donc de même, ils sortiront de la synagogue et on en sera débarrassé. C'est exactement ce qui s'est passé. Exclusion. 18 plus 1 ne font pas 19. On continue à appeler ça Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions, mais il y en a 19. Sauf que l'addition ne marche pas, puisque c'est une fausse addition, puisque ça vise à exclure. C'est en fait une soustraction. Bon, puisqu'on a parlé à Rabbani Talmud, on va continuer. Dans le traité Shabbat, au folio 21b, on nous relate une controverse entre l'école de Hillel et l'école de Shammai. Hillel et Shammai étaient deux grands maîtres qui n'étaient jamais d'accord entre eux. Et là-dessus, le sujet de dissension dans ce traité, c'est sur l'allumage des bougies de Hanouka. On parlait un peu des fêtes juives. C'est pas encore tout à fait la saison, mais donc, Hanouka. Alors, pour la fête de Hanouka, on allume 8 bougies. Shammai et Hillel sont d'accord là-dessus. Oui, mais dans quel ordre? Alors, Hillel dit, le premier soir, on allume une, le deuxième soir, on allume deux, hein, et puis le huitième soir, on allume 8. Shammai, pas du tout. Le premier soir, on allume 8, le deuxième, 7, et le dernier soir, 1. Bon, problème mathématique. Est-ce qu'on suit un ordre croissant ou un ordre décroissant? Problème mathématique. Difficile. Alors, il faut savoir que, si on parle d'inclusion ou d'exclusion, il faut savoir que d'habitude, je ne suis pas d'accord avec ça, mais puisque tout le monde le dit, je suis obligé de vous en parler. Tout le monde dit que l'école de Hillel est beaucoup plus tolérante, est beaucoup plus ouverte, est beaucoup plus universaliste, est beaucoup plus compréhensive que ces écoles de Shammai qui sont étriquées, qui sont étroites d'esprit, qui veulent exclure. Bon, soit. Alors, on va essayer de comprendre les logiques. Pourquoi ordre croissant ou décroissant? Pour Beth Hillel, plusieurs raisons, mais la raison qu'on retient le plus souvent, c'est un motif psychologique. C'est l'hiver, en tout cas c'est l'hiver. Vu l'hiver, c'est pas très marrant l'hiver. Donc il vaut mieux en allumer une le premier soir, puis deux le troisième, et puis finir par huit, ça fait plus de lumière. On va vers plus de lumière, c'est symbolique, ça fait plaisir à tout le monde. Parfait. Procédons comme ça. Bon, il y a une autre raison, mais qui est beaucoup plus technique, je vous en fais grâce. Et puis, Shammai. Alors, Shammai, c'est un peu plus compliqué, comme toujours, c'est bien plus intéressant. Shammai, ils disent, non, en fait, il faut suivre un ordre décroissant, parce que l'allumage des bougies de Hanouka est en rapport avec les sacrifices qui étaient faits au temple de Jérusalem pour la fête de Sukkot, demain soir, Sukkot. Alors, Sukkot. Sukkot, problème mathématique. Sukkot, problème mathématique. Il y a 70 nations. Dans la Bible, il y a 70 nations. Or, à Sukkot, on va sacrifier des taureaux pour les 70 nations. Les sacrifices de la fête de Sukkot ne sont pas réalisés au bénéfice du peuple juif. Non, c'est pour les 70 nations. C'est pour que ce soit une bénédiction pour les 70 nations. Donc, fête juive, mais en fait, à peine. Complètement universaliste. Bon. Et comment on fait? Ça dure 7 jours, on fait 70 divisé par 7, ça fait à peu près 10, reste 0. Donc, ça ne se calcule pas comme ça parce que c'est un peu trop simple. on va répartir autrement. La division se fait par rapport à une addition, en fait. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7. Ça fait 70. Ordre décroissant. Donc pour Beth Shammai, c'est ça qu'on doit faire à Hanouka. C'est ça qu'on doit faire à Hanouka. Parce que Hanouka, c'est la fête où on commémore la victoire contre les Grecs. Oh, les Grecs, vous savez, ceux qui ont inventé la philosophie. Horrible, horrible. Tout bon juif ne doit pas lire la philosophie. Et comme on disait un rabbin que j'aime beaucoup, rassurez-vous, je n'étudie la philosophie qu'au Shabbat. Donc, contre les Grecs. Contre les Grecs. Exclusion. Il n'y a rien d'universel là-dedans. Donc, Shammai rejette cette explication. Shammai ne veut pas entendre parler de Hanouka comme étant la fête de l'exclusion des Grecs. Donc, il relie la fête de Hanouka à Sukkot. Et il dit, on va faire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comment on faisait 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Parce que Hanouka est en rapport avec Sukkot. C'est une fête universaliste, où on vise à inclure les nations, et pas à les exclure. Bon. Donc il faut réviser un peu notre jugement sur Shammai et Hillel. C'est Hillel, c'est aussi celui qui a dit en traité Yevamot que un des motifs de divorce, c'était quand les plats que servait l'épouse n'étaient pas assez chauds ou trop salés. Certains trouvent ça tolérant, universel, pas moi. Bref. Donc, ça marche bien, hein. Ah, ça marche. Attendez, je viens de dire, je me contredis, la objection, votre honneur. Je viens de dire qu'il y avait toujours exclusion, là je suis en train de dire qu'il n'y a pas exclusion, parce que Shammai exclut. Oui, 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 c'est vrai. Sauf que la race est toujours Hillel. La halakha est toujours en accord avec Beth Hillel, jamais Beth Shammai. Bon, sauf là. Là, la halakha n'a pas tranché. La halakha, c'est la loi, peut-être qu'elle est décidée par les rabbins. Là, pour des motifs techniques, dont je vous fais grâce, on n'a pas tranché, on fait comme on veut. Chez soi, on fait comme on veut. Là. Donc on fait comme on veut. Oui, sauf qu'il y a quand même un problème. Parce qu'il y a 8 bougies, mais comment vous les allumez, vos bougies? Eh oui. Eh oui, il y a une 9e bougie. Sauf que la 9e bougie, elle n'est pas sur le même plan que les autres. D'ailleurs, on voit bien, ça s'appelle le chamash. C'est le serviteur, presque l'esclave. Bon. Donc on a 8 plus 1, mais qui ne font pas 9. 8 plus 1, mais pas 9. Donc on le veuille ou pas, et là, Shammai, il ne veut pas, hein, mais même Shammai, il est obligé d'accepter le fait qu'il y a une exclusion. On veut inclure tout le monde. Mais on n'y arrive pas, on ne peut pas. Autre, puisqu'on parle de Sukkot, tiens, puisqu'on parle de Sukkot, bon, on va parler de Sukkot. Ou Sukkot, alors Sukkot, on ajoute le loulav. Là, je commence à écrire de plus en plus mal. Hein. Et, ah bah. Oui. Alors, à Sukkot. On agite les arba minim, les quatre espèces. On prend quatre espèces végétales, une branche de myrte, une branche de sol, une branche de palme, et puis on prend une sorte de citron qui s'appelle le cédra, et trog. Quatre. Un plus un plus un plus un. Quatre. Pourquoi quatre? Parce que ça représente quatre types de juifs. Il y a des juifs qui ne pratiquent pas, qui ne croient en rien. Il y en a des qui pratiquent, qui ne croient pas, d'autres qui croient et qui pratiquent. Vous avez quatre possibilités. Donc chaque profil de juif est finalement symbolisé par un végétal. Quoi. Mais là, on est tous ensemble. Pour ce code, c'est universaliste. On est tous ensemble. C'est Tibour, c'est toute la communauté réunie. Quoi. On n'exclut personne. Sauf qu'il y a une façon précise, rituelle, de tenir les quatre espèces. 3 plus 1. Les 3 c'est dans la main gauche, et les 3 autres dans la main droite. Donc c'est 3 plus 1, c'est pas 4. Donc on réunit, mais malgré tout, il subsiste une distance, une sorte de césure, un hiatus. Il n'y a jamais d'union parfaite, ni complète, ni totale. Il y a toujours, dans l'inclusion, il y a toujours, qu'on le veuille ou pas, une forme d'exclusion. Alors, il faut bien voir que, je crois qu'il n'y a que Pessard quand on n'a rien dit. Bon, on va parler de Pessard. Oui. Alors, Pessard a un ceci de particulier que la logique de Pessard, c'est la logique dont je parlais tout à l'heure, la symbolique de la vie, le sang c'est la vie. Parce que pour les rabbins du Talmud, le sang qui était badigeonné sur les lenteaux des habitations des Hébreux, c'est le sang de l'agneau, mais c'est aussi le sang de la circoncision. Donc c'est la circoncision qui sauve, pas simplement le sang de l'agneau. Vous imaginez ce que ça va devenir plus tard. C'est le sang de l'agneau qui sauve, pas la circoncision. Et en termes chrétiens, est-ce que ça peut vouloir dire bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette inclusion, tout le peuple va être sauvé, on va faire sortir tout le monde d'Égypte, c'est pas si simple. Parce que si on définit le sang de la circoncision comme étant fondamental pour le rite de Pessah, pour le salut, en fait, on est conduit à une triple exclusion. Alors, on exclut évidemment les non-juifs. Comme le rappeler. On exclut les femmes. D'une certaine manière. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on dit que ce qui compte dans la circoncision, c'est pas la coupure, c'est le sang, c'est-à-dire qu'on définit le sang masculin comme ce qui coule de façon contrôlée, rituelle. Le sang menstruel, c'est anarchique. Ça ne se contrôle pas. C'est naturel. Le sang de la circoncision, c'est culturel. C'est cultuel. C'est rituel. Donc c'est pur. C'est propre. Ça se contrôle. Donc, à partir du moment où les rabbins du Talmud, ça s'est fait aux alentours du 1er, 2e siècle, à partir du moment où les rabbins du Talmud ont insisté non plus sur la coupure, mais sur le sang, c'est là que l'exclusion des femmes a commencé. C'est là où on a commencé à dire que le sang menstruel était impur, etc., etc., etc. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est une redéfinition de la circoncision comme coulure, et plus comme coupure, on pourrait dire. C'est le sang qui compte et plus la coupure. C'est ça qui a conduit à l'exclusion des femmes, par la suite. Par la suite, ça veut dire, en gros, le Moyen-Âge. Il s'est passé beaucoup de choses au Moyen-Âge. Et puis il y a une triple exclusion, j'ai dit, parce qu'il y a une troisième exclusion, les non-juifs, les femmes, et certains hommes juifs qui sont exclus de Pessah. Les hommes juifs qui ne seraient pas circoncis n'ont pas le droit de participer au Seder de façon complète et totale. Un homme juif non circoncis n'a pas le droit de manger de la ficomane. C'est le morceau de matzah que l'on conserve pour la fin, pour le dessert, un ficomane d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est le mot grec. Hein. Vous savez, Platon, on est banqué. C'est assez drôle. Alors, pas tout le monde, mais enfin, c'est un mot grec. Vous ne le dites pas aux corbeaux de Menaché et Harim, ils vont envoyer leur matzah de travers. Donc, c'est du grec. Et les hommes juifs non circoncis sont exclus du Seder, d'une certaine manière. Donc, quand on dit que l'alliance et la circoncision, qu'on le veuille ou non, exclut, produit l'exclusion, même quand on veut qu'elle inclue, c'est massivement le cas. Alors, que conclure après tout ça? J'ai intitulé ma conclusion, il faut bien trancher. Alors, j'ai trouvé cette formulation, je l'ai empruntée à mon philosophe favori qui est Jacques Derrida. Il disait il faut bien manger. Alors, l'intérêt de la formule, c'est évidemment l'ambiguïté syntaxique. C'est-à-dire qu'il faut bien trancher, c'est-à-dire qu'il faut trancher correctement, comme il faut. Il faut trancher comme le dit la halakha, correctement, de façon cachère. Mais comment on ne sait pas comment faire? Puisqu'on voit bien que même quand on veut inclure, on exclut. On ne sait pas. Alors, il faut bien trancher. Parce qu'on est obligé, on fait comme on peut, en fait. C'est toujours un peu imparfait, quoi. En fait, si on réfléchit bien. Donc, on ne sait pas comment le faire, mais il faut bien le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut bien le faire. Parce que, avec mes histoires d'inclusion et d'exclusion, en fait, je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas en train de, même si j'ai l'air de le faire, mais je suis pas en train de tenir un discours nihiliste en disant donc l'alliance ça marche pas, le rituel ça dérape toujours, c'est une opération imparfaite, etc. Non, je suis pas en train de dire ça. On peut pas s'en débarrasser de tout ça. Parce que il faut revenir au moral de Prague, on ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça qu'on dit il faut bien trancher. On ne sait pas comment faire, mais on est obligé de le faire. C'est pas une faute. C'est pas une erreur de procédure, c'est pas une imperfection, c'est dans la nature même de l'être, de l'alliance, d'être comme ça. On n'y peut rien. Donc il faut bien continuer. Et donc, pour reformuler, il faut trancher le moins mal possible. C'est-à-dire, ne pas succomber à l'illusion qu'on peut inclure tout le monde sans exclure personne. Ça pousse à la lucidité. Il faut continuer les rites d'alliance, etc., quelle que soit la façon dont on le fait. Il faut essayer de continuer à inclure, tout en sachant qu'on n'arrivera pas à éviter l'exclusion. On n'y arrivera pas. Parce que le monde est ainsi fait. Il y a toujours un reste. Comme disait Sarah Kaufman, philosophe contemporaine, disciple de Jacques Derrida, reste toujours un reste. On n'en sort pas. Et pourquoi? Pourquoi reste toujours un reste? D'abord, d'où on le sait qu'il y a toujours un reste et que le monde est ainsi fait? Il faut revenir au début. Bereshit, premier mot de la Bible, Bereshit bara Elohim. Bereshit. Alors, Bereshit, c'est, alors, be, c'est la préposition de lieu, de temps, quand, au début, au commencement. Parce que Bereshit vient de roche, la tête, le début, etc. Mais, si on applique une petite opération mathématique qui s'appelle la permutation, on aboutit à puis chez Eric avec le reste. Dieu a créé le monde, non pas au commencement, Bereshit, mais puis chez Eric avec le reste. Donc on a Beit, la lettre Beit, la première, signe de dualité, le monde est double, duel, deux alliances, inclusion, exclusion. Et puis, avec quoi? Parce que Dieu a créé le monde avec du chez Eric, avec du reste. Il ne peut pas ne pas y avoir de reste. Et heureusement, sinon, il n'y aurait pas de création. Il ne peut pas y avoir de création sans destruction. Mais sans destruction, il n'y aurait pas de création. C'est ce que nous dit le premier mot de la Bible. Ça marche comme ça. Et je précise pour finir que chez Eric, c'est le mot qui en hébreu moderne désigne le reste d'une division ou d'une opération mathématique. Donc c'est bien la même idée qui nous poursuit depuis le début. Alors comment on fait? Ben, à mon avis, il faut renoncer à l'idée d'une alliance universelle. Une alliance, ça n'est jamais universel, ça n'est jamais total, ça n'est jamais inclusif ni maximaliste. Pourquoi ? Et là, ben, je crois que c'est Eliane qui l'a dit au début. Hein. Tout commence par l'air, la Créa. Va vers toi, va pour toi. Donc c'est le particulier. L'alliance, même si elle se veut universaliste, ne peut passer que par le particulier. Donc exclure tous les autres individus qui ne sont pas cet individu-là en particulier. Donc on peut multiplier les alliances, on peut avoir plusieurs alliances côte à côte, mais on n'en aura jamais une qui inclura tout le monde.
Je reste sans voix. Merci Gérard. C'est toujours la surprise avec Gérard. C'est la surprise parce que c'est pas du tout notre mode de pensée. Et je le dis à chaque fois, enfin, on n'a pas eu beaucoup encore assez l'occasion de suivre ton enseignement, mais c'est vraiment tellement particulier. C'est l'enseignement des yeshivot, c'est-à-dire des écoles talmudiques. C'est un enseignement qui n'existe pas tellement ici, en tout cas à Annecy, ou alors peut-être des tout petits noyaux, on est exclus. Quand ? À la fin thématique, il sera là. Mais c'est vrai que c'est un enseignement que tu nous as offert ce soir, très particulier sur l'alliance. Et on a appris, en tout cas moi j'ai appris vraiment beaucoup. Donc je laisse la parole à ceux qui auront envie de poser d'autres questions, pas d'autres, des questions, ou en tout cas, voilà, pas très bien. Jean-Robert.
Oui, alors, Gérard, je vais d'abord commencer par la notion de séparation. L'élément indispensable pour assurer la rencontre, l'alliance. Et c'est à ce niveau-là, Gérard, tu diras ce que tu en penses. On sent que le judaïsme précède la psychanalyse, la psychologie. On voit cette affinité entre judaïsme et psychanalyse. Alors, je vais faire une approche plus psychanalytique. On voit que une véritable rencontre, l'alliance entre deux êtres, commence d'abord par l'individualité. Ce ne sont que deux êtres véritablement souverains et indépendants qui sont capables d'établir un contrat, un accord, une alliance. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que c'est des êtres solitaires. Voilà, alors là, on tombe dans le paradoxe, mais je pense que dans ton approche talmudique, on a des fondamentaux de la psychanalyse, ce sont les solitaires qui peuvent s'associer. Il n'y a pas d'association dans des relations de dépendance. Ces deux êtres indépendant, mais ça peut être la même chose pour des sociétés, hein, tout partenariat. Bon, j'ai commencé par le couple, la dualité du couple, mais ça peut être pour n'importe quel partenariat d'association, d'entreprise, et même entre nations, entre États. C'est dans le respect de la souveraineté de chacun ça c'est d'abord le préalable, que l'on pourra faire quelque chose ensemble. Alors, ça veut dire quoi, une souveraineté, que ce soit entre deux nations, entre deux entreprises, entre deux associations, entre deux individus? Une souveraineté, ça veut dire qu'on est capable de se séparer, qu'on est capable d'être seul, qu'on est capable de s'assumer, qu'on est capable de se responsabiliser. Et c'est à partir de toutes ces compétences, je peux être seul, je peux m'assumer, je peux me séparer, je peux mettre une distance aux autres, à ce moment-là, je suis enfin prêt à une véritable association. Je m'arrête là. Que penses-tu de cet éclairage que beaucoup d'écoles de psychologie et même de philosophie indiquent que on ne pourra s'associer que si déjà tu es capable de te séparer des autres, de t'isoler. Donc peut-être, si tu peux t'exclure du monde, tu pourras à un moment donné t'inclure. Voilà, j'attends tes commentaires. Merci.
Alors, bon, il y a beaucoup de choses dans tes remarques et ta question. Pour ce qui est de on ne peut s'inclure que si on s'exclut d'abord, etc. Moi, ce sur quoi je veux surtout insister, c'est l'espèce de concomitance des deux. En méridien, déconstructeur. Je ne voudrais pas installer de chronologie entre les deux. Je pense que le geste qui inclut est en même temps toujours déjà le geste qui exclut. C'est inévitable. Voilà. Alors, pour une raison, je parlais de l'être même du monde, etc. Prenons un exemple simple, on vit dans un monde temporel. Très simplement, si j'inclus quelqu'un, si je fais un geste vers quelqu'un, en même temps, je ne fais c'est aussi faire, ne pas faire de geste envers d'autres. Donc, nécessairement, la temporalité fait que j'inclus, j'exclus en même temps. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. C'est comme là, ce soir, je vous parle ce soir, donc j'ai choisi de ne pas parler à l'heure. Je veux dire, j'exclus tout le monde, mais c'est vice versa. Donc voilà, donc, je crois que c'est la concomitance, moi, qui m'intéresse. Voilà. Ce que tu disais par rapport effectivement au couple, je crois qu'on peut faire un rapport entre le passage que tu as eu, lui et Liane, sur l'alliance entre les morceaux, et puis Adam et Ève, parce qu'il y a un mot-clé dans l'alliance entre les morceaux, effectivement. Alors, justement, ta question va me permettre de dire un mot de ce mot. C'était la torpeur. Il y a un moment clé où Abraham tombe torpeur. Alors, en hébreu, le mot torpeur, c'est tardema. Or, tardema, c'est le mot qui est utilisé lorsque Adam s'endort, tombe en torpeur pour donner naissance à Chava. Bon. Donc, à mon avis, il y a aussi c'est que on va, pour inclure Chava, Ève, dans l'humanité, dans la vie, il va falloir exclure la côte, le côté. C'est la même chose. Et donc, puisque ce mot est présent dans la création d'Ève, il est présent aussi dans l'alliance entre les morceaux, et donc on retrouve aussi ce lien inclusion-exclusion dans l'autre texte. Alors, par rapport à Adam et Ève, je ne peux pas ne pas parler de cette expression qui définit Ève. Elle est, par rapport à Adam, elle est Ezer Kenegdo. C'est-à-dire, elle est une aide pour lui. Une compagne, etc. Sauf que Ezer, Kenegdo, littéralement, ça veut dire elle est une aide contre lui. Ça veut dire cette expression. Donc, on a le positif avec le négatif en même temps. On a l'exclusion et l'inclusion. Le pour et le contre. Et voilà, et c'est tout le temps comme ça. Ce double mouvement de tension, on l'a tout le temps partout. Sauf que, il n'est pas forcément tout le temps facile à reconnaître. Pas facile dans les textes, pas facile psychologiquement, parce qu'on n'a pas envie de se dire que c'est comme ça, quoi. Mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté, la lucidité de le dire, quoi. C'est comme ça. Voilà. Bon. Mais c'est, alors j'insiste, parce que ça me paraît fondamental, ça n'est surtout pas à lire de façon morale. C'est pas une faute. C'est juste qu'on le sait comme ça, on n'y peut rien, quoi. Voilà. Ça n'est surtout pas, je pense que les lectures morales sont stupides. Bon, voilà. C'est idiot de lire en particulier la Bible, de façon morale. C'est complètement stupide. Ces problèmes ne se situent pas au niveau de la moralité. C'est comme l'exil, etc. C'est pas la conséquence d'une faute. Ça n'a aucun sens de parler comme ça, quoi. Voilà. Donc, il faut changer d'échelle, il faut changer de concept. Voilà. C'est des concepts ontologiques ou métaphysiques ou peu importe, mais pas appliqués par la morale. C'est pas juste de morale. C'est beaucoup plus intéressant et subtil que ça, quoi. Voilà. Et donc, voilà. La dame pourrait dire, les femmes, je suis contre, tout contre. C'est ça. C'est ça. Voilà, en même temps. Ça répond à ta question, ça?
Ah oui.
Ah ouais?
À la fois pour et contre.
Ouais.
Bon. On est éternellement dans le paradoxe.
Ben oui. Dans Derrida, Derrida est indécidable. C'est les deux à la fois, quoi.
Oui, merci pour ce bel exercice des constructeurs. Moi, j'avais deux questions. Une peut-être un peu anecdotique sur la canonisation des textes quand le 4 plus 1 de la Torah, de Genèse à Nombre, qui n'égale pas Deutéronome, avec l'assimilation après sur ce qui se passe dans la Deuxième Alliance. Je ne suis pas certain, mais ça demande éclaircissement, puis il y en a peut-être dans la salle qui sont plus au courant. Il y avait plus que 4 évangiles, donc il y a eu un processus qui n'est pas forcément le même. Bon, on peut se le redire, c'est vrai que pour les 12 tribus et les 12 apôtres, ça c'est clair, c'était le tome hiérarchique. Je ne suis pas certain, mais je me le pose en question et je le trouve anecdotique. Par contre, sur le Genèse 15, de la séparation des morceaux, c'est pas simplement 1 n'est pas égal à 2. Il me semble qu'il y a 1 plus 1 plus 1, et peut-être d'ailleurs égal à 1, parce que Abraham qui devient Abraham. Il y a Dieu qui est présent, il y a le Hé qui est là, qui est passé au milieu, dans la torpeur, le souffle est passé au milieu de l'esprit, donc d'Adonai, de Yahvé, de ce qu'on veut. Et puis, si on l'assimile à l'union de l'âme, il débouche dans la présence de Dieu sur une troisième personne, donc sur un être unique qui apparaît. Enfin, moi, je le dis comme ça.
Alors, pour ce qui est de la canonisation, etc., je ne me place surtout pas au niveau historique, moi. Je ne parle pas au plan historique quand je dis 4 plus 1, etc. Je considère le texte tel que je l'ai dans les mains. C'est-à-dire, non pas de façon diachronique, mais synchronique, aujourd'hui, quoi, hein, contemporain. Donc, au niveau structurel, je remarque la structure de ce texte, c'est celle-là. Voilà. Donc, je ne me prononce absolument pas sur l'évolution historique, je ne fais pas de critique historique, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Ce qui est éminemment respectable, mais ce n'est pas mon propos. Alors, pour ce qui est du Hé qui passe, alors effectivement, bon, dans ce qu'on appelle le Shinui, donc le Shinui, c'est le changement de nom. Moi, j'insisterai sur le... Là, je voulais y revenir, j'ai oublié, donc merci de me permettre de le faire. Je vais revenir sur l'étymologie qui est proposée par le texte biblique lui-même, Abraham, parce que tu seras le père d'une multitude de nations. Ça veut dire quoi? Bon, en intitulé, on avait mis le texte de Genèse 22-18. Toutes les nations seront bénies en toi. Non, non, une multitude de nations. Pas toutes, une multitude. Certaines, donc, sont exclues. Il faut prendre les deux versets ensemble. Pas juste celui qui nous arrange. Pas juste celui qui fait un peu compte de fait, quoi. Toutes les nations seront bénies en toi. Non, non, non. Il y a l'autre verset qui dit que tu seras le père d'une multitude de nations. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Non, pas de toutes les nations. Voilà. Donc, moi, cette étymologie m'intéresse parce que ça veut bien dire qu'on a un mouvement duel, encore une fois, de tension, inclusion-exclusion, et qu'on n'en sort pas. Peut-être que je n'ai pas envie d'en sortir.
en parlant du reste, justement, j'ai toujours été par le petit reste qui fait principe. Sept milliards d'êtres humains, il y a le petit reste, 12, 15 millions de juifs.
Oui, mais je crois que c'est aussi une façon, cette fois, positive, de définir le reste. C'est aussi, donc, il y a toujours un reste, au sens où il y a toujours des gens qui sont exclus, mais inversement, il y a toujours un reste, il y a toujours quelque chose qui reste, c'est-à-dire que la destruction n'est jamais totale. Bien sûr. Donc le reste, c'est aussi ce qui est à définir comme une espèce de noyau de résistance, quoi, un noyau dur qui, de toute façon, restera dans la structure du monde. Quoi. Absolument. Oui, oui, aussi. C'est peut-être une question qui, quelque part, est une forme de réponse. Dans cette tension inclusion-exclusion, c'est quelque part peut-être une garantie de la liberté, de notre liberté. Parce que tous les grands systèmes totalitaires, justement, c'était « on va inclure tout le monde ». C'est l'inclusion générale, l'inclusion totale. Dans l'histoire, je préfère l'inventaire, un certain nombre, même de pratiques religieuses, de grandes autres religions monothéistes, qui, sous couvert de l'universalité, ont voulu inclure toute la planète, ou des systèmes idéologiques, politiques, qui ont voulu, par leur système, inclure le monde entier. La tension, cette tension permanente entre inclusion et exclusion, j'ai l'impression qu'elle permet finalement le maintien de la diversité, de la différence. Parce que dans l'inclusion, apparemment générale et totale, une dimension presque mythique, on n'a plus de différence. Il y a un risque dans l'inclusion d'uniformisation l'uniformisation. On se ressemble tous. Voilà, bon, maintenant je le répète dans des phrases différentes. Je reviens. Pourquoi c'est bien et pourquoi on peut peut-être bien se sentir dans cette tension inclusion-exclusion, ça nous permet peut-être de rester libre.
Alors, oui, ça nous permet de rester libre. On me place au plan politique. Hein.
C'est la force de parler de logique on-off et inclusion-exclusion, le micro timé. Parfois oui, parfois non. Donc le micro est d'accord avec moi, c'est déjà pas si mal. Oui, donc on se passe au plan politique. Alors, et, je crois qu'effectivement, on pourrait paradoxalement aussi parler de la dualité du un, quoi. Echad, c'est Adonai, Echad, Dieu est un, et c'est aussi ce Fat, Echad, c'est-à-dire la lèvre, la langue une de Babel, la tour de Babel. Donc le un lui-même est double. Le un peut être positif ou négatif, ça dépend de quoi on parle. C'est pour ça que, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles un des noms de Dieu, c'est quand même Elohim qui est un pluriel. Parce que le Dieu lui-même doit échapper au un. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre que les chrétiens parlent de Trinité. C'est une façon d'échapper au un. Moi, je peux tout à fait comprendre ça, de ce point de vue-là. Aucun problème avec ça, bien sûr. Ça fait du mouvement, ça tourne, c'est bien. Formidable. Oui. Et je m'en tiendrai aux garanties de notre liberté, oui, au niveau politique, pas métaphysique ou autre. Parce que je ne crois, comme j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, je ne crois pas du tout à l'existence d'une liberté métaphysique ou ontologique ou que sais-je encore. Donc, je ne peux parler de liberté qu'au plan politique.
Développer.
Oui, oui. Bon, oui, ben je vais repartir sur alors l'alliance entre les morceaux. Dieu annonce l'exil, etc. Une fois qu'il a annoncé l'exil, l'exil est obligé de venir. Dieu lui-même ne peut pas se rétracter. Une fois qu'il a annoncé l'exil, Dieu lui-même est pris au piège de son annonce. Donc moi, l'alliance, alors autant je disais tout à l'heure que ces deux individus isolés, indépendants, séparés, etc., qui peuvent contracter une alliance, oui, mais je ne dirais pas, moi, que ce sont deux individus librement, hein, contractent une alliance. L'alliance, pour moi, n'a absolument, rigoureusement, rien à voir avec la liberté. Les deux personnes sont mises sur un pied d'égalité, et les deux sont prises, ces deux parties sont prises dans la logique de l'alliance. C'est pas du moins. Ah oui, alors là oui, mais bon, voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais moi je découplerai complètement, je séparerai complètement la notion de responsabilité et la notion de liberté. Pour moi, la notion de, mais j'en ai déjà parlé, mais la notion de responsabilité n'a pas à s'adosser sur une quelconque liberté. Ça, c'est, pour moi, c'est à mon sens faux et à mon sens inutile parce que dangereux, non productif. Voilà. Qu'on soit libre ou pas, ça n'est pas la question. Nous sommes responsables, point final.
On pourrait dire la même chose, donc être autonome et libre, c'est différent.
Ça dépend ce que tu entends par autonome. Si c'est autonome, si c'est celui qui se donne sa propre loi, je ne suis pas d'accord. Parce que la loi a été corrompue. Je ne suis pas conscient. Hermann Cohen, etc., c'est admirable, mais pas pour moi. C'est-à-dire, je ne crois pas que la liberté humaine consiste à se donner sa propre loi. Je crois que la loi est hétéronomie, on la subit, et moi je suis plutôt du côté de Yeshayahu ou Lebovitch. La loi, elle existe, je suis soumis à la loi, point final.
Le sens de la responsabilité est à elle seule la liberté. Donc, ça vient peut-être un peu en différence, parce que si on a la responsabilité, on a donc le sens de la liberté. C'est tout ce que je voulais ajouter. Et d'autre part, je voulais me permettre le son hot, le signe de Dieu sur le front de Cain. C'est aussi un prémisse du baptême chrétien. Donc, ça veut dire que ça va tellement au-delà et au départ de toute chose que le judaïsme. Pour moi, le hot, le signe de Dieu sur le front, est un des prémices, à mon sens, que tel que je l'ai ressenti, du baptême chrétien.
Oui, enfin, pourquoi pas.
Donc,
vous pouvez voir.
Nous autres, nous remontons tellement
oui.
Au judaïsme.
Oui, 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 oui. Mais,
c'est ce que je voulais dire.
Bien sûr, mais c'est un signe qui, du coup, exclut autant qu'il inclut. Puisque les juifs sont forcément exclus du baptême. Enfin, ce genre,
oui. C'est plus mais néanmoins, pour moi, le hot, cette main de Dieu sur le front de Cain, c'est ce que ça m'inspire.
Oui, oui.
Comme réflexion, tout ça.
Oui, 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 très bien. Mais alors, pour la question de responsabilité, avec la responsabilité, on a le sens de la liberté. Qu'est-ce que vous entendez par là?
À partir du moment où on est responsable.
Oui. On est libre.
Dire que, voilà, c'est la liberté. C'est soi.
Pas pour moi, mais...
Il me semble que la responsabilité est synonyme de la liberté de chacun. C'est pourquoi
je... Oui, oui, je comprends. Enfin, oui, oui, oui.
Mais... il y a une petite nuance.
Ah oui, il y a une norme, il y a un monde. Oui, oui. Il y a un monde entre les deux. Oui. Mais bon, voilà. Donc, non, pour ma part, j'estime qu'effectivement, bon, je peux pas. Enfin, c'est long, c'est difficile. Oui, ça y est, c'est bon. Bon, l'idée, d'une certaine manière, c'est un peu l'idée de Lévinas, c'est-à-dire que je suis soumis à Harvot, ce principe de responsabilité. Je suis soumis, pour prendre une image beaucoup plus parlante sans doute, au moment de la révélation du Sinaï. Dieu amène la Torah, il avait proposé la Torah, dit le Midrash, à tous les peuples du monde qui n'en voulaient pas. Et puis Moïse lui dit, c'est quoi ta Torah? Ben tu vois, j'ai une table de la loi. T'as une table de la loi et ça coûte combien? Ben c'est gratuit. Ben tu m'en mets deux. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'il y a deux tables de la loi. Bon. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'il a fait Dieu selon le Midrash? Il a pris le Sinaï, la montagne, il l'a renversé au-dessus de la tête du peuple, réuni, en disant. Vous la prenez ou vous la prenez pas? Si vous la prenez pas, je laisse tomber la montagne, elle vous écrabouille. Et ben on va la prendre. Voilà. Donc, de l'aveu même du Midrash, il n'y a pas de liberté dans l'acceptation de la loi. On n'accepte pas la loi, on y est soumis. C'est le principe même de la loi. On y est soumis. Et c'est une image, c'est une idée très... Enfin, je conçois qu'elle puisse heurter, qu'elle soit compliquée, etc. Hein. Et parce qu'elle est particulière, elle nous est particulière et qu'elle n'a pas vocation à être universelle. On n'a pas envie de l'imposer à qui que ce soit. Oui, mais pour nous, la responsabilité n'est pas séparable de la loi. Quoi. C'est les mitzvot, c'est la loi qui rend responsable. On n'est pas responsable comme ça, là, en dehors de la loi. Quoi. Et ça, c'est tout l'édifice du judaïsme. La responsabilité, notre sens, qu'à travers la loi qui est imposée, etc. Enfin, voilà. Mais, bon, ça demanderait un séminaire de philosophie du droit, philosophie éthique, etc. J'ai peur que ce soit un peu long.
Je voudrais dire ce que j'ai particulièrement aimé, et je vais commencer par ce sur quoi je ne suis pas d'accord, sans développer, parce que ce n'est plus l'heure de développer ça, mais la dernière partie, je ne suis pas d'accord, mais on en a déjà parlé. Donc c'est une, je ne formulerai pas de la même manière que Françoise, mais c'est vrai que ce n'est pas ce que tu as dit dans la dernière partie, je ne suis pas d'accord. Mais on peut ouvrir le débat maintenant, parce que ce serait beaucoup trop long. Il faudrait sûrement toute une séance sur laquelle d'ailleurs tu as travaillé, mais c'était un jour où je n'étais pas là. Les soirs, je n'étais pas là. J'avais dit en commençant que je te remercie, on pouvait te remercier parce que tu allais nous communiquer le texte, et ceux qui ne te connaissaient pas ont pu s'apercevoir qu'on aura bien besoin du texte, on aura bien besoin des lettres pour comprendre la gymnastique des chiffres. Moi, je veux dire, ce que j'ai particulièrement aimé, ce qui a provoqué une forte résonance en moi. D'abord, cette exhortation, tout le monde, c'est comme ça que je le lis, à refuser le simplisme, à refuser les interprétations réductrices. Et surtout, il est revenu dans, il y a peu de temps, là, il y a 10 minutes, les interprétations moralisatrices. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu nous as invité à revisiter l'approche mathématique, à conjuguer les opérations, et ça, je trouve que c'est merveilleux comme gymnastique, à appréhender les restes, même lorsqu'ils n'apparaissent pas de façon évidente. On a l'habitude de dire qu'il faut accommoder les restes. Et toi, tu nous dis qu'il ne faut pas nous accommoder de l'apparente absence de restes. Et puis, ton chouchou, voilà, Maharal de Prague. Non, avant d'arriver au Maharal, je voudrais dire aussi quelque chose. Moi, j'ai ressenti pendant cette soirée que ce que tu nous disais, ça s'inscrivait pleinement dans la démarche de l'amitié judo-chrétienne, démarche initiée notamment par Julliard. Parce qu'il y a, on retrouve des termes dans la démarche, des termes que tu as écrits sur la page de présentation, et puis que tu as répété tout au long de la soirée. Parce que dans la démarche de l'amitié judo-chrétienne, il n'y a ni l'exclusion, il n'y a ni l'inclusion. Le chrétien ne peut prétendre inclure le juif. Il n'y a ni le concept, à mes yeux, abominable de substitution versus Israël. Il y a... Non, je ne vais pas aborder ce point-là parce que ça nous donne un morceau. Je vais venir à ton chouchou, le Maharal de Prague, que j'aime beaucoup aussi. Moi, l'enseignement que je tire de ce que tu nous as dit, mon enseignement purement personnel, hein, c'est une invitation à refuser l'explication de ceux qui... Non, l'explication de l'exclusion de ceux qui refusent d'être inclus par la force, de ceux qui refusent le piège de la substitution. Et je vais donner deux exemples. Mais dire quelque chose avant. Le refus de suivre ceux qui veulent justifier l'existence de la maladie, tu nous l'as dit, du mal par la faute, par la transgression morale. Ça, c'est totalement insupportable. Et on a vu par exemple un cardinal, je ne sais pas quoi, mais ça existe aussi dans le monde juif, qui disait que le sida, c'était... Mais il y a aussi des chrétiens qui ont prétendu que le christianisme était le verus Israël parce que les juifs étaient frappés d'aveuglement, qui les rendait incapables de comprendre la parole de Dieu. Et je crois que quand on va à Strasbourg sur la cathédrale, voilà, il y a la synagogue qui est calée. Voilà. Et puis, des autres, parfois les mêmes, qui sont allés jusqu'à considérer que la Shoah était voulue, était envoyé par Dieu lui-même pour punir le peuple juif qui refusait de se convertir. Mais voilà, le Maharal de Prague, il balaye, il nous invite à balayer tout ça, il nous invite notamment, nous chrétiens, à balayer devant notre porte. Voilà, merci infiniment.
Merci Norbert.
Juste une information à vous donner. J'ai reçu la revue Sens tout à l'heure et elle est pleinement dans le dialogue judéo-chrétien, mais c'est vraiment le thème. Et en parlant justement des notes stream, en parlant des. J'ai pas lu, hein, j'ai pas eu le temps, mais j'ai feuilleté et ça m'a paru passionnant. Donc si vous avez. Je redis. D'essayer de vous abonner à cette revue Sens parce qu'elle est d'une richesse infinie. Bon, si on est quelques-uns ici à avoir la revue, quand je l'aurai lue, éventuellement, je la laisserai et puis comme ça, vous pourrez la faire passer. Mais justement, on parle beaucoup, on parlera dans cette revue, on parle des judéo-chrétiens et du problème et tout est bien, je crois, c'est court, c'est dense. Mais ça doit être assez fort. Ça allait un peu dans les explications, dans ce que tu nous disais tout à l'heure, Gérard, le peu que j'ai survolé. Voilà, je voulais vous donner cette information. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions, commentaires, demandes? Vous voulez, François?
Oui, non, mais ça, c'est après.
Oui, j'ose dire que j'ai trouvé cette conférence merveilleuse, mais je n'ai pas tout compris, loin de là. Je repars sur ma faim, et ça m'angoisse, parce que des choses merveilleuses ont été dites, et je n'ai pas tout compris, loin, loin, loin de là. Je voudrais simplement savoir, puisque toutes les nations en toi seront bénies, ce n'est pas la bonne traduction. Il y en a qui sont exclus, je voulais simplement dire quelles sont les nations qui sont exclues de cette bénédiction. Est-ce qu'il faut prendre ça à la lettre ou c'est encore un 2 plus 4 égale 7 ça? Quelles sont les nations exclues?
Enfin, une question polémique. Enfin, j'avais entendu des perches. Mais... si ma mémoire est bonne, mais elle le sera parce que c'est pas si ancien, puisque Yom Kippour c'était quelques jours, dans le traité Yoma, c'est le traité du Talmud qui explique le rituel de Yom Kippour, etc., il y a un commentaire sur un verset ça a l'air assez anodin, qui parle du roi Sennacherib, qui a modifié les frontières, etc., son royaume, enfin bref, un verset qu'on ne lit plus, qu'on ne lit pas, sauf les rabbins du Talmud, qui disent la chose suivante. On ne peut pas se baser sur les noms des peuples tels qu'on les trouve dans la Bible pour identifier qui que ce soit. Parce que le verset « Le roi Sennacherib a modifié les frontières » signifie ceci pour les rabbins du Talmud, et pas forcément malheureusement pour tous les rabbins, mais signifie ceci pour les rabbins du Talmud. Les identités sont mêlées, on ne peut pas reconnaître qui que ce soit aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour les juifs. On ne sait pas qui est qui. Donc je ne peux pas répondre à votre si pertinente question, parce que, heureusement, les rabbins du Talmud se refusent à identifier qui que ce soit. Un exemple, on parle des Koutim, les Kouchites, les Éthiopiens, etc., qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qu'on peut appeler aujourd'hui les Éthiopiens, etc. C'est écrit noir sur blanc, en lettres carrées, à chourite, dans le Talmud. J'aimerais que ce soit lu un peu plus souvent, et que ce soit rappelé un peu plus souvent. Donc, c'est à prendre. Tous ne sont pas, toutes les nations ne seront pas bénies, etc. C'est à prendre au niveau et sur le plan que j'ai défini tout à l'heure, sur le plan strictement ontologique, ça ne vise personne en particulier. C'est juste comme ça. Ça définit un processus. Ça définit une façon d'être pour le monde. Ça définit, on dirait un. Un adage familier, Keminago Olecha Olam, c'est la façon dont marche le monde, quoi. Keminago Olecha Olam. C'est comme ça, ça marche comme ça, mais ça ne vise à exclure personne. Il se trouve que certains seront exclus. Mais pas parce qu'on veut les exclure, c'est parce que ça fonctionne comme ça. Vous voyez, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de cible. C'est juste comme ça, quoi. C'est arbitraire. Je vais, alors, tant qu'on y est, parce que j'ai dit que je ne croyais pas à la liberté, on va y aller. Je ne crois pas non plus au Dieu de l'histoire. Voilà, c'est dit. Avec au Dieu de l'histoire. Yeshayahu Leibovitch et moi pensons que si Dieu agissait dans l'histoire, menait l'histoire, planifiait l'histoire, ça se saurait. Voilà. Donc, c'est arbitraire. Si certains sont exclus ponctuellement pour des raisons historiques, etc., c'est arbitraire. Ce n'est pas parce que Dieu veut les exclure ou parce que tel verset dit qu'ils seront exclus, etc. Ça n'est pas comme ça. Dieu merci que ça fonctionne.
Je ne vais pas être très long. J'ai retenu de ce que vous a lu Eliane. Et lorsque tu as pris la parole et que tu es revenu plus tard sur l'angoisse, tu as longuement parlé de l'angoisse, et comme j'ai entendu Eliane dire torpeur et angoisse, j'ai eu un manque. Et heureusement que, sans que personne ne te le demande, tu es revenu tout seul, à un moment donné, je ne sais pas comment, il y a eu même des clics, et tu es revenu sur ta démarche. Et tu es revenu sur ta... Et là, j'ai été tout à fait satisfait. Bon. Autre chose est ce que tu as cité par rapport à Adonai Echad, Dieu est unique, et puis ce nom qui interpelle beaucoup de monde, et malgré toutes les explications qu'on nous donne, Elohim. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres appellations, d'autres noms de Dieu, parce qu'il y en a au moins une douzaine de noms de Dieu dans la Torah. Et dans, sinon dans la Torah, mais dans les commentaires. Makom, etc. Mais dans la prière de Kippour, dans le Seder Avodah, j'ai eu une attention particulière, j'ai voulu suivre, et à un moment donné, j'ai vu la traduction, la triple sainteté de Dieu. Est-ce que ça ne t'a pas déjà dit quelque chose? Et puis, Kadosh, Kadosh, Kadosh.
C'est bavard, mais quand Samuel et moi on joue au jeu des devinettes, je ne sais jamais ce que je dois répondre. Donc, je ne sais pas, sinon on avait juste la position des trois, sans addition. Les trois sont juste apposés côte à côte. Parce qu'on dit bien Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il n'y a pas de conjonction de coordination, il n'y a pas d'opérateur mathématique, il n'y a rien, c'est juste. Non.
On a deux noms après.
Oui,
on
a.
Adonai, Sebaoth.
Après, voilà.
Donc c'est 3 et 2.
Alors, mais puisqu'on parle de.
Puisqu'on
parle des différents noms, etc., c'est une occasion de. Bon, un des termes qui est utilisé pour désigner Dieu, c'est source, c'est le rocher. Or, puisque la vocalisation, enfin les consonnes sont les mêmes, dans le texte d'Exode 4, Tsipora pratique la circoncision du fils, l'outil qu'elle utilise pour trancher le prépuce, c'est Tsor. Le caillou, et la meilleure traduction est en celle de la tombe, qui dit le silex. Elle utilise un biface, un silex. Donc l'outil de la dualité. L'outil de la dualité.
Un petit mot pour faire écho à la deuxième partie de l'intervention de Marie-Lou. Moi, je bénis le Seigneur de nous faire repartir tous, chaque séance, pas seulement ce soir, avec la faim. Parce que quand on n'a plus faim, si on est rassasié, c'est là qu'on entre dans la mort.
Moi, je voulais ajouter à propos des nations, effectivement, que l'on ne connaît pas, et peut-être qui ne sont pas, qui ne rentrent pas, dans cette alliance, mais c'est le monde en devenir, parce que le jour où effectivement tout le monde, toutes les nations du monde seront rentrées dans l'alliance, le monde sera terminé. Alors où ce sera la rédemption, ce sera la vue du Messie et ce sera une fin de monde, de ce monde. c'est beaucoup plus simpliste hein, ce que je dis par rapport à... Mais il y a peut-être toujours cette nécessité de ceux que l'on ne connaît pas et qui ont à travailler à se devenir. Mais en fait, ça, c'est notre histoire à chacun. Parce que le Lech Lecha, il est dans le devenir de chacun. C'est ça que nous avons à faire. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais l'addition au complet. Parce qu'on a toujours à compléter et à continuer. J'ai trouvé que c'était... Et quant à la terre, parce que moi je voulais poser la question aussi, on n'a pas du tout parlé de l'idée de la terre, alors que dès le départ, Dieu dit à Abraham qu'il lui donne, va vers la terre nouvelle. Et cette terre nouvelle, est-ce qu'elle n'est pas aussi intérieure, ce changement en nous? Et elle est aussi, sans doute, extérieure, puisqu'on a bien besoin de se poser quelque part. Mais là, je ne sais pas si c'est rentré encore, peut-être dans une autre soirée.
Non, mais pour compléter cette histoire, cette question qui est fondamentale, hein, qui sera exclu hein. Elle est fondamentale, cette question. Mais, donc, je vais peut-être mieux dire ce que j'ai du mal à dire tout à l'heure. C'est que quand il sera le père d'une multitude de nations, par opposition au verset, toutes les nations sont bénies. Donc il y a bien la confrontation des versets, indique bien qu'il y a une exclusion. Mais, comme je l'ai dit, ça décrit un processus, ça décrit une logique de ce monde. Rien ne dit que dans les faits, en pratique, historiquement, il y aura effectivement exclusion. C'est juste un principe, une logique que l'on énonce. D'accord ? Peut-être qu'en pratique, il s'avérera que personne ne sera exclu. Mais je m'intéresse à la logique, à l'être, à la structure. Voilà. C'est plus clair comme ça. Voilà. Et oui, alors après, effectivement, mon moment de venir. Et finalement, au bout du bout, à la fin des fins, parce que je ne suis pas forcément la faune mécréante que j'ai l'air d'être, on ne sera plus dans le monde tel qu'il est, on aura changé de structure. Donc les lois mathématiques qu'on a décrites, les apories mathématiques, les blocages, etc., les opérations qui ne tombent pas justes, ben, elles tomberont justes. Simplement, on n'est pas dans ce monde-là. Pas encore. Pas encore. Et donc pas. Encore pas.
Je voulais reprendre la phrase du père Barthélemy. C'est un monde à venir. Et on a tout le travail que Gérard nous a un petit peu donné, stimulé à vivre pour devenir. Devenir. Est-ce qu'il y a des amis devant? Les messieurs, madame, pasteur, non. Père Barthélemy, est-ce que vous allez bien?
Ça demande toute une réflexion, hein. Parce que quand vous parlez de toutes les nations de la terre, la multitude. Et la multitude, c'est ce qu'on ne peut pas compter. Parce que quand Abraham lui dit, compte les étoiles du ciel si tu peux, compte les sables de la mer si tu peux, ainsi sera ta descendance. Bon, la descendance d'Abraham, c'est tous ceux qui sont appelés à la foi. Puisque Abraham, c'est la foi d'Abraham. Alors, la descendance, mais en même temps, cette descendance, elle est bien tournée vers les nations. Et pour dire tout à l'heure le Dieu de l'avenir, dans la Bible, c'est toujours le Dieu de la promesse. Et la promesse, c'est bien toujours l'avenir. Donc, nous vivons dans la dynamique d'une promesse. Et c'est en rentrant, parce qu'Abraham, c'est celui qui a cru à la promesse. Donc, c'est la dynamique de la promesse qui est au cœur de l'histoire. Parce que, il ne faut pas dire d'avance qu'il y aura forcément des nations exclues ou non. D'ailleurs, le mot nation est un peu ambigu, parce que dans la Bible, nation, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas d'Israël, c'est toutes les nations. Voilà. Et le mot nation, est aussi à voir avec le mot culture, c'est-à-dire le comportement des âmes et ce qu'ils vivent. Donc ça veut dire aussi que dans la promesse de Dieu, tous les hommes, avec leur propre culture et ce qu'ils sont, sont appelés aussi.
Alors, deux remarques. Dynamique de la promesse, effectivement, dynamique processus, moment de devenir, etc. Dynamique de la promesse, oui. Mais, enfin, ce que j'espère avoir montré, c'est que la promesse, inévitablement, elle est double, elle est duelle. On promet la terre, mais on promet l'exil aussi. Donc il y a fidélité dans la promesse, mais fidélité dans la promesse de l'exil aussi. Bon. Et puis. Oui, bah, oui, alors, projet, moi j'ai un petit problème avec ce mot-là, enfin, tout dépend de ce qu'on entend par projet, enfin bref, ça nous emmènerait trop loin. Mais par rapport à la culturation, le devenir des nations, etc., je crois que ça rejoint complètement la logique de Shammai et de Sukkot. Parce qu'il y a un commentaire qui essaye de comprendre pourquoi à Sukkot on offre des taureaux dans un ordre décroissant. Ça, on va t'expliquer. Shammai dit à Hanouka, on allume les bougies dans un ordre décroissant parce qu'à Sukkot on fait comme ça. Oui, mais pourquoi on fait comme ça à Sukkot? Eh bien, on fait comme ça à Sukkot, dit Maïmonide. 13 nations, dont 12, 11, 10. Parce qu'il y a de moins en moins de nations qui refusent Dieu, qui rejettent Dieu. Donc on est dans un processus positif, dynamique. Et au bout du compte, 7, 70, le but c'est que toutes les nations acceptent Dieu à la fin. Et donc à la fin, Sukkot sera célébré par toutes les nations. Donc il y a bien cette visée qui inclurait tout le monde sans exclure personne. Mais pas encore.
Est-ce que c'est une belle conclusion? Parce que le temps passe. Et c'était une. On pourrait continuer, je pense. Hein. Merci Gérard. Merci vraiment. Alors oui, Françoise soulevait quelque chose, mais je voulais en parler bien sûr très brièvement, mais le dire. Notre amie Jeannette.